Bien, bonsoir à chacun et chacune. Nous reprenons donc notre petit parcours où nous l'avons laissé. Vous vous rappelez que le contenu de la révélation coranique est traditionnellement réparti en quatre grands chapitres. Les articles de foi, les actes de culte rendus à Dieu, les deux chapitres que nous avions abordés la semaine dernière, et puis il nous reste deux chapitres, l'un qui vise l'agir de l'homme en sa finalité morale, et puis un dernier qui vise tout ce qui touche aux relations sociales des personnes entre elles. Si vous regardez le syllabus que certains d'entre vous ont acquis, vous verrez que dans le syllabus pour la séance de ce soir, il n'y a qu'une page qui soit prévue. Je ne vais pas vous libérer après 10 minutes, mais j'ai trouvé important dans la pondération de nos exposés cette année-ci de pouvoir accorder une importance un peu plus grande à ces deux points, car il touche à une série de questions qui sont difficiles aujourd'hui. Alors je ne vais pas entrer plus dans le détail, dans la matière du contenu révélé, je n'y entrerai pas plus que ce qui est dans les notes, donc très peu, mais je voudrais par contre relever quelques enjeux transversaux qui font difficulté aujourd'hui par rapport à ces différentes matières. Et à travers ces enjeux transversaux, essayer de nous donner quelques repères pour les bien cerner aujourd'hui et peut-être aussi pour les penser. Donc nous allons commencer par la question de l'agir de l'homme en sa finalité morale. Un des noms du Coran, lorsqu'on le désigne, c'est Al-Furqan, ce qui divise, ce qui fait la distinction entre le bien et le mal. Le Coran est une parole révélée qui permet de distinguer, de diviser entre le bien et le mal. Le Coran fait la distinction. Les prescriptions révélées constituent pour les musulmans la norme morale. C'est là le fondement de la moralité. Le fondement de la moralité se trouve dans la révélation. C'est donc dans un texte que le croyant accède à ce qui fait le fondement de la moralité. Ce qui veut dire que l'on n'est pas dans l'ordre d'une loi naturelle, mais d'une loi positive, telle qu'elle est écrite dans un texte. La loi morale est une loi positive. Bien que ce que je vous dis là n'est que partiellement juste, car du point de vue musulman, la révélation qui est donnée au prophète est la seule et unique révélation que Dieu donne aux différents prophètes à travers l'histoire. Dieu ne se contredit pas. Et c'est donc la même révélation que Dieu avait donnée à Adam lors de la création du monde. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas simplement opposer la loi positive de la révélation à ce qui serait une loi naturelle. Du point de vue croyant, il s'agit bien de la même loi, si ce n'est que la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'humanité en Adam au moment de la création, elle s'est trouvée comme pervertie dans sa transmission, et la seule façon d'y accéder aujourd'hui est de la retrouver dans son expression positive, dans le texte révélé. Il s'agit donc bien, non pas dans la morale d'une loi naturelle au sens où nous le penserions dans une tradition occidentale, il s'agit bien d'une loi positive puisqu'on y accède par le biais du texte révélé du Coran, mais qui, dans une perspective théologique musulmane, se réconcilie pleinement avec une loi naturelle, mais perçue comme étant la loi qui a été donnée en la première révélation dans le cœur d'Adam, au moment de la création. Il s'agit bien donc d'une loi positive qui permet de restaurer l'origine. Et c'est un élément qui est important à percevoir, car nous retrouverons le même type de raisonnement tout à l'heure, lorsque dans le point 2, nous aborderons la question des droits de l'homme, qui est une question qui est source souvent de beaucoup de malentendus également. Donc c'est pour cela que paraît vraiment important que déjà, au niveau de la morale individuelle, vous puissiez bien percevoir le rapport entre l'expression de cette loi positive dans le contenu révélé avec l'éternelle révélation que Dieu a donnée à l'humanité et qu'il a, entre autres, donnée à Adam. En étant détentrice de cette loi contenue dans la révélation, la communauté musulmane se pense comme ayant un rôle qui est de commanderie du bien et d'interdiction du mal. C'est une mission qui incombe à la communauté tout entière et donc à laquelle tous les musulmans se sentent partie prenante là où ils vivent. Commander le bien et empêcher, interdire le mal. Alors, quel est le contenu de cette morale révélée? On ne peut pas dire qu'on trouve dans le Coran de listes suivies, organisées ou exhaustives de prescriptions ou d'interdits. Mais finalement, à travers le texte, il est possible d'établir une sorte de parallèle entre les prescriptions révélées en matière de morale et le décalogue dans la tradition biblique. Donc on peut établir, on n'a pas du tout de parallèle en termes de formulation, mais donc le contenu de cette morale présente dans la révélation coranique est proche de la morale présente dans la loi donnée à Moïse dans le décalogue. Voilà une brève introduction, présentation de ce troisième grand chapitre du contenu de la révélation, à savoir tout ce qui touche à l'agir de l'homme en sa finalité morale. Je voudrais, pour ce chapitre, relever une question que la tradition musulmane a très largement élaborée dès les tout premiers siècles et qui est une question importante aussi aujourd'hui, au moment de la rencontre des cultures, des civilisations, des traditions religieuses. C'est la question de la liberté. Quelle est la place de la liberté humaine dans la vie morale, dans l'agir? La culture occidentale contemporaine accorde une place très importante hein, la liberté individuelle et tout ce qui paraît une atteinte à la liberté individuelle est considéré comme inadmissible. Comment se situe la tradition musulmane par rapport à cette question de la liberté? Comment concilier la liberté humaine et la toute-puissance de Dieu? C'est finalement cette question-là qui se pose. Si Dieu est réellement tout-puissant, ce qui est une des affirmations importantes de la révélation à propos de Dieu, quelle est la place de la liberté humaine? C'est la question de la prédestination. Est-on prédestiné à faire ce que nous faisons, à être ce que nous sommes, ou est-ce notre liberté qui nous construit dans notre agir et dans notre être? C'est la question qui est parfois perçue, c'était souvent le cas dans la littérature occidentale du 19e et du début du 20e siècle, hein, à propos du monde oriental et du monde musulman, c'est la question du fatalisme. Hein, c'est un monde qui paraissait pour des occidentaux modernes comme un monde marqué par la fatalité. Qu'en est-il plus précisément? Il est incontestable que l'Arabie pré-islamique, donc d'avant l'islam, est marquée par un fatalisme au sens propre. Il y a un destin impersonnel qui s'impose à tous, aussi bien aux hommes qu'aux dieux, et auquel personne ne peut rien faire. Toute vie humaine est soumise à ce destin dans la perspective pré-islamique, avec comme conséquence une grande insouciance en ce qui concerne la vie morale. S'il y a un destin qui s'impose à moi, finalement, ma responsabilité n'est engagée dans rien de ce que je fais, et donc je fais n'importe quoi. L'existence d'un destin anonyme qui s'impose aussi bien aux hommes qu'aux dieux conduit dans la vie morale à une forme d'insouciance. Le Coran, dans sa révélation, s'oppose radicalement à ces croyances. Il y a, dans la tradition révélée, une double affirmation qui peut, à première vue, paraître contradictoire, mais qui pose en même temps de façon très nette la place du croyant. Le Coran affirme d'une part la toute-puissance de Dieu. C'est vrai, c'est incontestable. Mais, dans le même temps, il affirme radicalement aussi la liberté et la responsabilité de l'homme. Nous sommes donc devant deux affirmations qui sont présentes sans réconciliation dans le texte coranique. Le texte coranique ne cherche pas à les harmoniser. Il les pose, et c'est sans doute la position la plus sage pour le croyant. C'est une double affirmation qui place de façon très juste le croyant. Si on regarde la période qui suit immédiatement la révélation, à savoir la période où se développent les hadiths, les traditions, on voit que l'aspect qui est souligné, c'est surtout l'aspect de la toute-puissance divine, au détriment des affirmations coraniques révélées qui posaient nettement la liberté de l'homme. Alors on peut voir cela soit comme une influence des mentalités pré-islamiques, qui vivaient effectivement dans une mentalité où le destin, la destinée avait une place plus prépondérante que la liberté humaine. Mais on peut le voir aussi comme une réaction par rapport aux débats théologiques qui se sont posés dès les premières générations de l'islam, comme nous le verrons la semaine prochaine lorsque nous ferons une brève présentation des grandes disciplines religieuses de l'islam, où certains positionnements plus rationalistes, comme ceux de la Mu'tazila, en venaient à pondérer davantage l'aspect de liberté, de responsabilité, de raison humaine. Donc, les hadiths peuvent avoir été l'expression d'une réaction des courants théologiques qui voulaient rétablir un certain équilibre. La question, en tout cas, occupera une place importante dans toute la réflexion théologique et avec des accentuations très différentes suivant les écoles théologiques. Donc, par rapport à cette question de la liberté humaine, nous ne pouvons pas entrer dans des caricatures qui supposeraient que le monde musulman soit étranger à la problématique de la liberté. Il faut bien saisir le lieu à partir duquel il le pose, qui est celui de la mise en rapport de la responsabilité et de la liberté humaine en lien, en rapport à l'affirmation également de la toute-puissance de Dieu. Est-ce que l'homme est créateur de ses actes ou ses actes sont-ils créés par Dieu ? Hein, c'est la façon dont la tradition posera la question. Les accentuations sont différentes suivant les écoles théologiques et donc la question de la liberté humaine est donc bien une question qui est présente dans les réflexions musulmanes et qui nourrit hein, toute la réflexion sur la morale et la finalité morale de l'agir humain. Voilà un premier, ou un troisième, hein, si on fait le lien avec le cours de la semaine dernière, un troisième grand chapitre hein, du donné révélé. Croyance de foi, les actes de culte, l'agir de l'homme en sa finalité morale, c'est avec cette question transversale que j'ai amenée pour attirer notre attention hein, sur la question de la liberté, de la place de la liberté dans la vie humaine. Il nous faut maintenant aborder le quatrième et dernier grand chapitre du contenu de la révélation tel qu'il est reçu par la tradition, c'est-à-dire toutes les questions qui touchent aux relations sociales des hommes entre eux. Mu'amalat, comme on les appelle en arabe. Dans le regroupement traditionnel des données coraniques, ce chapitre concerne finalement tout ce qui a trait au Coran comme source de droit. Et il y a cinq grands domaines qui sont ici concernés et qui sont traditionnellement considérés comme évolutifs pour s'adapter aux situations. Ainsi, les ibadat, les actes par lesquels l'homme rentre un culte à Dieu, sont fixes et ne peuvent pas évoluer à travers les siècles. On considère en général que toutes les matières regroupées sous le chapitre « Mu'amalat » sont-elles susceptibles d'évolution pour s'adapter au mieux aux situations. Et il y a cinq chapitres qui sont traditionnellement regroupés sous ce terme de « Mu'amalat ». Un premier chapitre qui a trait au statut personnel. Ce sont les questions relatives au mariage et à sa dissolution, puisque la tradition musulmane a une approche très contractuelle du mariage, donc on n'a pas une valorisation spirituelle du mariage comme on la connaît dans le christianisme, avec ses conséquences d'indissolubilité, de mariage pour la vie, etc. Du point de vue musulman, le mariage est un contrat, et donc il y a des modalités à la fois pour établir le contrat et pour y mettre éventuellement un terme. Le statut personnel, donc c'est le mariage et sa dissolution, les règles relatives à la filiation et à l'adoption, les règles relatives à la tutelle, à l'esclavage et au droit successoral. Toutes ces matières-là sont un premier grand chapitre de ces mu'amalat, des relations sociales des hommes entre eux, telles que la révélation en trace le cadre. Puis, il y a un second chapitre qui a trait aux transactions commerciales. Traditionnellement, c'est un chapitre assez restreint. Il concerne finalement deux domaines, ce qui est de dire que transactions commerciales sont interdites pour toutes les matières qui sont interdites, donc on ne peut pas faire du commerce de l'alcool ou on ne peut pas faire de commerce de drogue, etc. Et que d'autre part, l'argent ne produit pas de l'argent tout seul et que donc le prêt à intérêt n'est pas permis. Ce sont traditionnellement les deux domaines principaux, alors que si maintenant vous recherchez « mu'amalat » sur Internet, dans un moteur de recherche, vous verrez que finalement maintenant « mu'amalat » ne désigne plus que les transactions commerciales, comme si l'ensemble des relations sociales des hommes entre eux était régi uniquement par le commerce. C'est dire que le grand domaine de réflexion islamique sur ce chapitre des mu'amalat aujourd'hui touche précisément à toutes les questions relatives au commerce. À tel point que dans beaucoup de publications, mu'amalat ne désigne plus que l'aspect commercial. Un troisième grand volet de ce chapitre, c'est tout ce qui touche au droit pénal. Il y a tout un droit pénal qui est issu des données de la révélation. En lien avec cela, il y a évidemment toute l'organisation de la justice, avec les questions des témoins du serment, et enfin tout ce qui touche à l'organisation de la communauté musulmane, la Ummah, avec un modèle idéal qui est la communauté musulmane de Médine, du temps du prophète et de la révélation, mais également englobant souvent la période des quatre premiers califes, les califes bien guidés, c'est cette période-là qui est considérée comme la période idéalisée et un modèle pour l'ensemble des sociétés musulmanes à travers le monde et dans l'histoire. Parce que c'est une communauté qui est à la fois unie autour du prophète et de la révélation, et qui est organisée par cette révélation, et qui surmonte également toutes les divisions tribales. Une communauté qui est capable de vivre une unité, grâce à cette unité autour de la révélation. Pour ces cinq grands chapitres des relations sociales, statut personnel, transactions commerciales, droit pénal, organisation de la justice et organisation de la communauté, les données coraniques complétées par la tradition seront élaborées progressivement et conduiront à la constitution de quatre grandes écoles juridiques qui s'imposeront progressivement pour répondre aux différentes questions que pose la vie de la communauté musulmane. Nous reprendrons la semaine prochaine la question du fiqh comme discipline religieuse de l'islam, du droit donc. Mais signalons déjà donc que c'est un droit qui se développe à partir des questions concrètes qui se posent. Donc il ne se développe pas comme un code, hein, mais plutôt à la manière d'un droit anglo-saxon, hein, qui travaille par jurisprudence et par situation concrète. Et les sources de ce droit sont bien sûr les données du Coran et de la tradition, mais d'autres sources seront adjointes pour permettre le développement de ces écoles. Il y a d'une part le raisonnement analogique, pouvoir établir l'analogie entre une situation et une autre qui serait présente dans la révélation et que donc on pourrait arriver à une solution. Un deuxième élément qui a été très prégnant très longtemps, mais qui, je crois, peut encore jouer un rôle fort aujourd'hui si les musulmans le redécouvrent davantage, c'est la question du consensus, de l'ijma. En islam, il a toujours été considéré que ce soit en matière de droit ou même en matière d'interprétation de la révélation, le consensus de la communauté est un critère fondamental de validation d'une proposition ou d'une position. Évidemment, lorsque la communauté grandit, le consensus est un concept difficile à exercer, à mettre en œuvre. Alors, il s'est souvent traduit comme étant le consensus, l'ijma, des savants, par exemple. Mais cette notion de consensualité est importante en matière de développement du droit et d'interprétation du Coran. Et donc, je crois que nombre de musulmans pourraient maintenant redécouvrir l'illégitimité de prise de position incendiaire, prise de façon individuelle ou par des petits groupes, qui ne sont pas reçues par la majorité ou l'ensemble des savants ou la grande majorité des musulmans. Un principe d'ijma, de consensualité, est un principe qui, à travers toute la tradition musulmane, a été un principe de validation de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Donc en matière de droit aussi. Et puis, deux autres sources du droit qui ont servi également, c'est l'opinion personnelle du juriste qui élabore la solution. Et enfin, le recours aux traditions pré-islamiques. De dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on faisait avant l'islam par rapport à cette question-là qui n'est pas traitée par la révélation ? Et les quatre écoles juridiques, finalement, vont se différencier dans la façon de pondérer ces différentes sources du droit, soit en donnant plus ou moins de place à l'analogie, plus ou moins de place aux traditions pré-islamiques, plus ou moins de place au consensus, et quelle forme de consensus. Donc c'est la façon de pondérer ces différentes sources du droit qui caractérisera et distinguera les différentes écoles théologiques. Donc voilà le contenu de la révélation telle que la tradition musulmane l'a reçue en ce qui concerne les mu'amalat, donc cinq grands chapitres, statut personnel, transactions commerciales, droit pénal, organisation de la justice, organisation de la communauté, des données révélées, développées par la tradition et développées par les écoles de droit, donc vraiment des chapitres consistants pour la vie des musulmans et de la communauté. Et en même temps, nous sommes là devant les chapitres qui posent sans doute le plus de questions dans la rencontre avec les cultures occidentales ou judéo-chrétiennes. Et donc, je vous ai mis, dans le petit plan, quatre questions transversales par rapport à ces différentes matières. On pourrait dire les questions qui fâchent. Et vous voyez qu'elles touchent toutes à un grand domaine, hein, finalement, du contenu de la révélation, à savoir ben, les relations sociales entre nous, entre soi. Et c'est finalement là hein, que les uns et les autres se trouvent concernés. Et ces questions qui sont difficiles, ben, j'en ai énuméré quatre. Je voudrais tout d'abord, en guise d'introduction, si vous voyez les quatre titres que j'ai mis, que nous prenions d'abord bien conscience que ce sont des questions modernes et des questions occidentales. Ce sont des questions qui sont à la fois nées récemment chez nous, si nous prenons la première, la question du statut de la femme. Il n'y a pas si longtemps qu'en Belgique ou en France, les femmes peuvent voter. Donc la question de l'égalité homme-femme est une question très récente dans nos sociétés également. Et c'était pour ça qu'elles sont d'autant plus sensibles aussi, parce qu'on n'est pas encore tellement assuré sur ces questions. Et donc, prenons donc bien conscience d'abord que ce sont des questions modernes ou voire contemporaines, et né en Occident, et puis essayons de voir comment on peut honnêtement essayer de les situer par rapport au contenu de la révélation musulmane. Je prends la première, la question du statut de la femme. C'est une question que l'on retrouve bien sûr dans toutes les questions relatives au statut personnel, que ce soit les règles relatives au mariage, que ce soit les règles relatives à la succession. Ce sont des questions que l'on retrouve aussi dans l'organisation de la justice. Et de toute évidence, nous sommes dans un modèle tout à fait inégalitaire. La femme hérite la moitié de l'homme. Il faut deux femmes pour un homme comme témoin en justice. Donc cela donne la mesure. Nous sommes dans un modèle qui est clairement inégalitaire. Alors comment percevoir ce modèle? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ceux qui veulent s'en tenir à la lettre de la révélation, en disant ben, « c'est écrit ». Que c'est ainsi, donc c'est ainsi. Mais d'autres, je pense à des féministes musulmanes, je pense par exemple à Fatma Mernissi, universitaire marocaine, qui dit, mais non, si on regarde plus précisément le contenu de la révélation et de la tradition, on se rend compte que ce que la révélation coranique réalise dans la société arabe pré-islamique, c'est une extraordinaire émancipation de la femme. Ainsi, dans la société pré-islamique, la femme n'héritait pas et faisait partie de l'héritage. Donc, d'objet, elle est devenue sujet de droit, ce qui est une amélioration non négligeable, vous reconnaîtrez, qui évidemment ne va pas jusqu'à établir une égalité. Mais c'est poser au texte une question tout à fait anachronique que d'interroger un texte du 7e siècle en lui demandant comment il intègre la question de l'égalité entre hommes et femmes, alors que nous essayons de vaguement l'intégrer maintenant au 20e et au 21e siècle. Donc, on ne peut pas projeter dans des textes des questions que nous nous posons aujourd'hui. Et donc, des gens comme Fatma Mernissi, par exemple, diront que ce qui est à rejoindre dans la révélation n'est pas la lettre de telle ou telle forme sociale, mais bien un mouvement inscrit par la révélation et qui institue la femme comme sujet de droit dans un cadre d'égalité fondamentale de tous les croyants devant Dieu. Et que donc la forme, le contenu de la révélation n'interdit pas ou n'empêche pas de concevoir des modèles d'organisation sociale égalitaire. D'autant plus, comme je vous le disais, traditionnellement, les questions de statut personnel et d'organisation de la justice font précisément partie des mu'amalat, de ce contenu de la révélation qui a toujours été considéré comme pouvant être adapté pour traduire au mieux ce qui est révélé dans des circonstances qui sont nouvelles. On voit dans le même temps, chez des auteurs contemporains qui eux veulent s'en tenir à la lettre de la loi, une mise en question qui disent « Oui, mais est-ce que vous êtes bien sûr? Est-ce que le statut personnel, le mariage et tout ça, est-ce que ça fait bien partie des mu'amalat? Est-ce que ça ne ferait pas plutôt partie des ibadat ?» C'est-à-dire des choses intangibles, puisqu'il s'agit des modalités par lesquelles on donne un culte à Dieu. Donc on voit que c'est une question en débat au cœur de l'islam, mais que les différentes positions ne manquent pas d'arguments pour avancer dans un sens ou dans l'autre. Donc nous ne sommes pas dans un système qui serait simplement bloqué. Et donc nous sommes, comme dans les autres sociétés, face à des enjeux qui sont de l'ordre de rapports de force politiques, économiques, sociaux, etc. Donc nous ne sommes pas dans un fixisme ou un dogmatisme religieux qui fixerait de tout temps les choses. Le donné révélé et traditionnel ouvre la voie à des interprétations dans les deux sens. Donc une façon de resituer cette question du statut de la femme, qui est souvent une question perçue comme difficile, d'essayer de voir comment elle se pose dans la tradition musulmane elle-même. Autre question difficile, c'est la question de la violence. Est-ce que l'islam, en soi, si ça existe, est violent, incite à la violence? Si nous regardons la révélation, vous rappelez que l'on distingue les textes révélés à la Mecque et ceux qui sont révélés à Médine. C'est dans la période médinoise, donc dans la dernière période de la vie du prophète, que le texte fait le plus référence à un dieu guerrier. Dieu est à la fois celui qui défend les croyants, qui les secourt au combat, qui envoie ses anges pour les assister, qui organise le combat, qui affermit les cœurs des combattants et leurs pas, qui jette l'effroi dans le cœur des ennemis, si bien que finalement, dans ces textes, la victoire n'est pas tant la victoire des combattants, elle est pratiquement celle de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est engagé. Alors, on est dans la période médinoise, la période de la première organisation de la communauté. C'est une période qui, de fait, a été celle de la première expansion, aussi par nécessité. Vous vous rappelez, Médine est une oasis agricole, et même si l'Égir n'a pas été une émigration de milliers de personnes, sans doute une grosse centaine, l'installation dans une oasis agricole d'une centaine de bouches à nourrir en plus, nécessite évidemment de trouver des voies de développement différentes, puisqu'on ne peut pas, ne connaît pas les techniques actuelles pour démultiplier les produits de la Terre, et donc on en est tenu à envisager une nécessaire expansion, et donc au détriment à la fois des caravanes qui passent autour, au détriment d'autres points à conquérir. Donc, dans l'organisation de la communauté de Médine, il y a une dimension de conquête, une dimension expansionniste qui permet très bien de percevoir la nécessité de légitimer et de valoriser cet engagement, y compris par la force, dans le développement de la communauté. Alors, du fait que cette période de Médine, du temps du prophète et du temps des quatre califes bien guidés, est, comme je vous le disais, une période tout à fait idéalisée dans la mémoire et la conscience musulmane, cette idéalisation entraînera le maintien, incontestablement, d'un axe de violence dans l'expansion de l'islam. Même si, dans le Coran, il y a également cette affirmation qu'il ne peut y avoir de contraintes en matière de religion. C'est un verset qui est présent dans le Coran, c'est dans la sourate 2, verset 256, mais qui est souvent sollicité pour légitimer une dimension d'ouverture, de tolérance dans les révélations coraniques. Mais si on regarde les exégèses qui sont proposées, on se rend compte aussi qu'il y a des exégèses qui vont dans tous les sens et que tous ne vont pas dans le sens de dire que l'islam ne doit pas être imposé. C'est au sein même de l'islam que pas de contrainte peut être exercée. Donc, une dimension de conquête, de place de la violence dans l'expansion de l'islam, me paraît avoir été exportée vraiment de la période d'origine et intégrée dans une conscience musulmane, tout en soulignant que la situation n'est pas la même pour tout le monde, puisque le Coran distingue les gens du livre Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, des païens qui, eux, doivent être combattus, tandis que les juifs, les chrétiens et les zoroastriens ne doivent pas l'être. Mais dans le même temps, très vite, dans l'imaginaire et dans le vocabulaire musulman, on distinguera ce qu'on appelle le Dar el-Harb et Dar el-Islam, la maison de la guerre et la maison de l'islam. Donc le monde, finalement, se divise en deux. Se divise entre ce qui est la maison de l'islam et ce qui est la maison de la guerre. Donc un modèle qui effectivement est un modèle de type expansionniste et un modèle qui en interne aussi, c'est une des autres questions que j'aborderai en finale, la question des minorités, et qui en interne aussi ne peut pas intégrer la diversité. Donc c'est une espèce de frontière géographique qui est pensée dans l'imaginaire entre Dar el-Harb et Dar el-Islam. Et cela renvoie alors à la question du djihad dans sa forme armée, qui s'impose très certainement en défense lorsque la communauté musulmane est attaquée, qui s'impose aussi contre les païens en matière d'expansion, et qui par contre serait, et nous voyons aujourd'hui ce qu'il en est, qui serait parfaitement interdit entre musulmans. Nous voyons maintenant que cette question de la violence religieuse est un vocabulaire qui est utilisé pour des conflits entre musulmans aussi, qui devient un autre nom d'une forme de guerre civile. Et donc on voit que la question de la violence est à la fois une question formalisée, elle n'est pas arbitraire, mais en même temps, si on regarde l'histoire et la réalité des faits, hein, on voit qu'elle est bien présente et qu'elle est présente dès l'origine, dès les premiers moments de l'expansion, hein, même si les conquêtes musulmanes, je pense, ne doivent pas être perçues comme une conquête majoritairement par le glaive et la force. Hein, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de conversions assez spontanées pour des raisons sociopolitiques, pour se démarquer des empires byzantins et perses dans les premiers siècles et trouver une autre forme d'unité que la dépendance par rapport aux grands empires. Mais donc, il n'empêche que cette question de la violence est présente au sein de l'islam. Elle est présente partout dans l'histoire de l'humanité. Le christianisme en a fait le cœur de sa foi. Jésus est mort sur une croix pour nous sortir précisément de la fatalité de cette histoire de violence. Mohammed n'est pas mort sur une croix. Hein, donc, l'islam doit porter cette question non solutionnée de la violence inscrite dans les relations humaines et qui fait partie de son bagage historique. Autre question transversale qui est difficile, hein, c'est la question des droits de l'homme. Inutile de rappeler là aussi qu'il s'agit d'une question moderne et récente et occidentale au départ, hein, avec une perception du côté occidental qu'il s'agit de quelque chose d'universel. Mais de quelle universalité parle-t-on? La question des droits de l'homme dans les relations de l'islam avec le reste du monde elle se pose dans plusieurs domaines, hein, qui choquent, hein, aujourd'hui. Bon, hein, il y a la matière de la liberté, en particulier la liberté religieuse, la liberté de changer de religion, la liberté de l'exercice de sa religion. Toute la question du respect de l'intégrité physique, on pense à toutes ces questions, hein, du droit pénal traditionnel lorsqu'il est appliqué. Et puis la question de l'égalité de tous, égalité homme-femme, égalité de tous les citoyens, quelle que soit, hein, leur conviction religieuse. Donc la question des droits de l'homme est une question qui n'est pas simple non plus. Et je voudrais, pour cette question-là, relever la manière dont l'islam contemporain essaie de la relever. L'approche est de dire que les droits humains sont des droits qui sont octroyés par Dieu. L'être humain a des droits, mais qui sont octroyés par Dieu, et non pas par un roi, une assemblée législative ou une déclaration universelle. Ces droits ne peuvent être modifiés. Aucune assemblée ou pouvoir ou même dictature au monde n'a le droit ni l'autorité d'y adopter aucune modification. Personne n'a le droit de les abroger. Mais il ne s'agit pas non plus de droits humains fondamentaux qui seraient conférés sur le papier. Il s'agit bien de droits positifs octroyés par Dieu. Et donc, de la même façon que je le soulignais en commençant aujourd'hui dans la question de la morale individuelle, mais comment connaître ces droits humains octroyés par Dieu à tout homme, qui sont inaliénables, que personne ne peut changer, si ce n'est par la révélation coranique. Donc les droits humains doivent être conformes à ce qui a été révélé. Et leur côté universel et inaliénable, nous le retrouvons, comme pour la question de la morale tout à l'heure, en nous rappelant que ce qui est révélé dans le Coran est simplement ce qui avait été révélé originellement à Adam, et que donc on renoue là avec ce qui fait les droits humains dans leur authenticité devant Dieu et dans leur universalité devant Dieu. Donc il y a dans les essais de déclaration des droits de l'homme en islam, tels que l'un ou l'autre ont été faits, mais une prétention également à l'universalité, mais sur une base religieuse. Donc, la question des droits de l'homme met en jeu des modes de pensée et des approches qui sont fondamentalement différents et qui l'un et l'autre ont une prétention à l'universalité. Donc, il ne sert à rien de simplement les opposer frontalement article par article, mais ce dont il doit être parlé, c'est précisément de ce qui nous fait parler, de ce qui nous fait affirmer des droits humains fondamentaux, car ils sont affirmés de part et d'autre. Puis, dernière question que je souhaitais éclairer un petit peu par rapport à cette mu'amalat, relation sociale des hommes entre eux, c'est toute la question des minorités. Quel est le statut des juifs et des chrétiens en pays musulman et pourquoi ? Cela touche à toute la question du rapport aux gens de l'Écriture. Si nous regardons le contenu de la révélation, sa progression à travers les différentes étapes mécoises et médinoises, nous pouvons établir un parallèle finalement assez net entre le sort des Juifs et celui des chrétiens, même si dans la réalité des choses, celui des Juifs était beaucoup moins enviable que celui des chrétiens. Mais dans le contenu des textes, on peut voir qu'il y a tout d'abord une tentative de rapprochement ou d'union avec les Juifs, qu'il y a un premier mouvement de sympathie envers les chrétiens, et on pourra extraire du Coran l'un ou l'autre texte, qui sont très, très élogieux, par exemple à l'égard des moines, dont il est dit, par exemple, qu'ils ne se gonflent pas d'orgueil. Et cela peut rester un programme pour tous les moines, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc le moine est quelqu'un qui ne se gonfle pas d'orgueil. Très bel éloge. Un premier mouvement, donc, qui est celui de tentative de rapprochement, de sympathie, puis un second mouvement qui marquera le conflit, où visiblement le prophète se rend compte que ni juifs ni chrétiens ne vont se rallier ainsi à la révélation nouvelle et rejoindre la communauté qu'il fonde, qu'ils ne se reconnaissent pas dans la révélation qui lui est donnée, et qu'ils ne lui reconnaissent pas non plus sa qualité prophétique. Une série de textes qui marqueront ce conflit et qui entraîneront une rupture qui sera dure envers les Juifs en particulier, mais qui, à travers l'histoire, pourra être dur envers les chrétiens aussi. Les uns et les autres, juifs et chrétiens, si on prend le verset 29 de la sourate 9, doivent, après ce moment de rupture, doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils paient le tribut et demeurent petits. C'est le verset coranique qui définit ce statut de dhimmitude, ce qui veut dire de protection, mais évidemment d'une protection subalterne, puisque au plan temporel, cela veut dire que les communautés juives et chrétiennes bénéficient d'un statut de protection, ce qui veut dire que leur personne, leur bien, leur culte, leur hiérarchie, leurs institutions, que ce soit en matière de droit personnel, d'école, de tribunaux, sont reconnues et protégées par l'autorité musulmane, mais à condition de payer le tribut spécial et de rester petit, c'est-à-dire de n'avoir pas de responsabilité ni de pouvoir dans l'État musulman. C'est évidemment une définition quelque peu théorique. Nous savons parfaitement qu'à travers l'histoire, il y a des chrétiens ou des juifs qui ont joué des rôles de premier plan dans des États musulmans et qu'il y a aussi eu beaucoup de situations où les institutions des chrétiens ou des juifs n'ont pas du tout été respectées, ont été détruites, où leur culte a été profané, etc. Donc, ce que je vous présente ici, c'est le statut théorique, en sachant bien qu'à travers l'histoire, des situations très différentes ont été connues. C'est donc au plan temporel le statut de ces communautés minoritaires. Si on prend ce qui en est dit au plan de la révélation, la tradition musulmane reconnaît les écritures juives et chrétiennes comme authentiques, mais seulement dans leur teneur originelle. Et nous n'avons plus ces textes dans leur forme originelle, ces textes ont été tronqués par la tradition, et le sens originel de ces écritures est celui qui est conservé dans le Coran, qui pratiquement donc dispense de recourir aux versions que connaissent les juifs et les chrétiens. Mais il n'empêche que juifs et chrétiens sont donc des communautés qui ont été bénéficiaires, du point de vue musulman, d'une révélation authentique. Ce sont des Ahl el-Kitab, des gens du livre. Ce ne sont pas des païens. Et c'est ce qui fait que les musulmans auront dans l'exercice de la protection de la dhimmitude, dans le meilleur des cas, le feront avec beaucoup de respect et d'estime pour ceux qui sont les descendants de ces communautés qui ont été bénéficiaires d'une vraie révélation. Il n'empêche qu'au plan du salut, du point de vue musulman, la religion des juifs et des musulmans et des chrétiens, pardon, comme voie vers Dieu, se sont trouvés abrogés par la révélation et la loi coranique. Il faut être musulman pour être sauvé. L'islam est la seule vraie religion. Donc, il n'y a pas de prise en compte d'un authentique pluralisme au sens où toutes les traditions pourraient être mises sur un pied d'égalité dans l'organisation de la vie en société. Il y a cette conscience que l'islam est la forme aboutie et définitive de l'unique et vraie religion. Il y a un verset de la sourate 5, le verset 48, qui est intéressant pour exprimer cette perception de la pluralité des traditions religieuses par la tradition musulmane. Ce verset dit ceci en traduction française. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Donc ce n'est pas à nous à trancher actuellement un ce en quoi nous divergeons, mais c'est Dieu qui, le moment venu, nous informera de cela. Et il y a donc dans ce verset une idée d'incitation à l'émulation que Dieu aurait inscrite dans l'histoire de l'humanité à travers les traditions. Concurrencez-vous, concurrencez donc dans les bonnes œuvres, dit cette traduction, le texte arabe, c'est afin que vous vous entreconnaissiez, les annata arafuna fil karamat, afin que vous vous entreconnaissiez dans les bonnes œuvres. Donc, il y a cette idée, oui, effectivement, d'une entreconnaissance, d'une concurrence, de rivaliser dans les bonnes œuvres à partir de ces différents chemins de Dieu. Voilà quelques questions transversales que je souhaitais mettre un peu en perspective par rapport à ce contenu de la révélation, puisque ce sont souvent des questions difficiles, mais pour que nous puissions percevoir que ce ne sont pas des questions idiotes, mais que ce sont des questions qui ont un réel enracinement dans une tradition, dans une pensée, et que la rencontre suppose pouvoir non seulement débattre de contenu, mais pouvoir dire aussi d'où nous parlons. Merci et bonne soirée.